Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chères mamas, futures mamas ou pas mamas du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Léa a toujours rêvé d'être maman, limite depuis qu'elle est venue au monde. Elle rêvait de ses maternités comme on les voit dans les films, magiques, avec un papa et une maman. Puis à 16 ans, elle comprend qu'elle aime les femmes et que son parcours pour avoir un enfant ne sera de fait pas celui qu'elle s'était imaginé depuis toujours. C'est la douche froide pour Léa. C'était sans compter sur sa rencontre avec celle qui va partager sa vie et l'aventure de la PMA. Un parcours assez court puisque Léa tombe enceinte dès le premier essai. Elle n'y croit pas, elle panique. Mais ça y est, son rêve de devenir mère est enfin là, il est bien réel et elle compte bien mettre autant de magie dans sa maternité que celle dont elle rêvait plus jeune. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul exemple possible, il manque juste d'autres représentations pour celles qui ne cochent pas la case hétéro, et Léa compte bien mettre des paillettes dans la vie de toutes celles qui, comme elle, se posent mille questions, pour que l'homosexualité dans la parentalité soit enfin représentée. Dans cet épisode, elle nous raconte ses rêves d'enfant, son parcours de PMA au Portugal, comment la maternité est accueillie là-bas. Elle nous parle aussi de l'inquiétude qui s'est emparée d'elle depuis qu'elle est devenue mère, et de sa douce vie de famille. Bonne écoute! Bonjour Léa.
Salut Shane.
Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas.
Avec plaisir.
Je te laisse te présenter. Toi, t'as combien d'enfants? Depuis quand tu es maman?
Alors, je m'appelle Léa, j'ai 29 ans, j'ai un enfant et je suis maman depuis 3 ans et demi.
Ouais.
Voilà. Et avec, j'ai eu ma petite avec ma femme, Capucine,
ouais.
Qui elle a 38 ans, on a 9 ans d'écart.
Ok. Donc, couple homosexuel.
Exactement.
Tu vas nous raconter tout ça. Mais avant, est-ce que tu as toujours rêvé de devenir maman ou c'était pas un sujet qui t'intéressait vraiment?
Ah oui, j'ai toujours rêvé de devenir maman. Ouais, c'était vraiment un rêve depuis toute petite.
Ouais.
Je pense que même je suis née avec cette envie, c'est incroyable. Et ça m'a jamais quittée, ça n'a fait que s'amplifier d'année en année. Voilà, et ce qui a été forcément plus difficile, c'est de comprendre que mon parcours serait peut-être un peu différent de juste... je tombe enceinte comme ça, un peu par magie. Mais oui, ça ne m'a jamais quittée. Ça a toujours été une envie.
C'était quoi ton regard sur la famille, du coup? C'était un papa, une maman
Oui, jusqu'à mes 16 ans, c'était un papa, une maman. Un enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu envie d'avoir un enfant. Ça a toujours été hyper ancré en moi et ça l'est toujours. Ça n'a pas bougé.
T'as des frères et sœurs, toi?
Oui, j'ai un petit frère. Okay. Pourtant, j'adore avoir un frère, mais je ne sais pas pourquoi. Ça a été aussi sûrement que je voulais un enfant, j'étais sûre d'en en vouloir qu'un aussi. C'était très bizarre, mais c'est comme ça. Et voilà, et mon regard sur la famille, c'était ça. Mon grand rêve dans la vie, c'était de me réveiller un matin et de me dire... j'ai un peu la nausée, je me sens pas très bien. Oh mon Dieu, j'ai fait un test de grossesse, peut-être que je suis enceinte. Ah oui, je suis enceinte, mais vraiment c'était...
comme dans les films, quoi.
Comme dans les films, c'était un fantasme de petite fille hyper ancré en moi. Ou mon autre grand délire aussi, c'était de me dire, un jour je vais ouvrir la porte et devant chez moi, il y aura un couffin avec un bébé.
Ouais.
Alors ça c'était... mais... et je sais pas pourquoi, j'étais bloquée dans ma tête sur ces histoires un peu magiques de maternité. Alors forcément, après, quand j'ai compris que j'étais lesbienne, ça s'est effondré et c'est ce qui a été le plus difficile pour moi.
Ouais, donc t'avais 16 ans ?
Oui, j'avais 16 ans quand j'ai eu ma première copine. Au départ, enfin, je ne me prédestinais pas, si je puis dire, à aimer les femmes, pas du tout. Moi, j'ai toujours été la petite fille, hyper petite fille, très très poupée, maquillage, robe, enfin, toute la panoplie qu'on peut imaginer. Et donc je m'étais jamais posé cette question avant mes 16 ans, ça ne m'avait même jamais effleuré l'esprit, mais vraiment pas. Et j'ai fait une rencontre, une personne qui m'a fait voir les choses complètement différemment et dont je suis tombée éperdument amoureuse. Donc c'était hyper bouleversant, mais comme j'ai l'habitude de vivre les choses à fond, j'y suis allée à fond. Et je me suis dit, c'est pas grave, je suis jeune, c'est juste que c'est elle, parce qu'elle est... Elle avait une personnalité un peu particulière, donc je me suis dit c'est elle, et puis après ça passera et c'est ok. Sauf que quand cette histoire s'est terminée, j'ai essayé de retrouver le droit chemin, ce que je me disais en tout cas à l'époque.
Ah ouais.
Et ça n'a pas du tout marché, j'étais là genre, ah non mais en fait j'aime pas du tout les garçons, c'est pas possible.
Ouais.
Et donc très vite j'ai compris que en fait moi ce que j'aimais c'était les femmes, et que je m'en étais jamais aperçue, mais que c'était la réalité des choses. Et donc ce qui a été difficile, c'était pas du tout de gérer le regard des autres, etc. Bon, ça j'ai dû le dealer, mais c'était presque plus facile que de gérer le fait de me dire mais mon Dieu, en fait j'aurai jamais un enfant, un peu avec cette pensée magique que j'avais, ça se passera jamais comme ça dans ma vie, je suis sûre de vouloir un enfant, donc je suis sûre que je vais devoir passer par un parcours, mais à 16 ans je savais pas encore exactement lequel. Mais je savais que ça allait pas être aussi magique et aussi plein de paillettes et de surprises que ce que je pensais. Et ça a été très dur, j'ai mis plein d'années avant d'accepter ça.
Ouais, comment t'as fait pour accepter que ce serait pas comme dans les films?
Avec le temps.
Quoi, qu'on pouvait toujours te déposer un coup fin.
Oui, on pouvait me déposer un coup fin, mais a priori personne ne l'a fait, dommage, mais... c'est avec le temps, en grandissant, en évoluant dans mes relations, etc., en voyant aussi des représentations de rares couples de femmes avec des enfants. Là, en ce moment, on en voit, mais pas tant. Alors, à l'époque, c'était pire.
Ouais.
Mais j'arrivais quand même à capter que c'était possible pour certains couples. Mais je me rendais bien compte que dans la plupart des cas, il fallait passer par un parcours de PMA, dans une clinique, quelque chose d'assez médicalisé. Et moi, ça me terrorisait. Donc pendant des années, je savais que c'était un peu ça, la voie, parce que je ne me voyais pas faire autrement, avec un ami, tout ça. C'était pas trop mon truc.
Ouais.
Et donc voilà, je savais qu'un jour, je devrais passer par là, probablement. Mais ça me terrorisait, et donc je suis restée terrorisée des années.
T'as pu échanger avec d'autres femmes qui vivaient ça ?
Très peu. Au départ, très peu. Je me suis mise à échanger vraiment quand le projet a été concret, que j'étais avec ma femme, tout ça.
Ok.
Voilà.
Et alors, nouvelle rencontre avec cette femme ?
Oui, alors, c'est drôle parce que Capucine, je l'ai rencontrée quand j'avais 16 ans aussi.
Okay.
J'avais en fait le droit d'aller dans un seul bar dans la ville où j'habitais parce qu'il appartenait au meilleur ami de mon père.
D'accord.
Et donc, mes parents me laissaient très peu sortir et que là-bas.
Ok.
Et Capucine, c'était la barmaid qui travaillait dans ce bar.
Okay.
Et donc, un jour, j'ai débarqué dans ce bar avec ma première copine. Et j'ai vu Capu derrière son bar et je me suis dit... Oh, enfin, vraiment, j'avais le sentiment que ma mâchoire se décrochait. Je me suis dit, elle est très, très canon, la barmaid. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, on est devenus amis parce qu'on a donc 9 ans d'écart. Et à l'époque, j'avais 16 ans, elle en avait 25. Mmh. Donc, l'écart était un peu... pas ouf quoi à cette époque. Aujourd'hui on capte même plus qu'on a 9 ans d'écart, hein, vraiment.
Oui.
C'est jamais un sujet, mais à cette époque c'était un peu tendu,
un peu plus prononcé, ouais.
Voilà. Ouais. Et donc moi j'ai vraiment eu un espèce de crush pour elle, et elle aussi elle m'a vu rentrer elle de l'autre côté, et
ouais.
En fait elle s'est dit ouh, elle est cool. Voilà. Mais donc on est devenus amis au fur et à mesure, aussi parce que moi j'ai enchaîné des relations longues et elle aussi, toujours, on n'a jamais été célibataire en même temps, donc en fait voilà, on était amis, on se taquinait un peu mais on était quand même amis. Et au bout de plusieurs années, je sais plus, 7 ans peut-être, 7-8 ans d'amitié, j'ai voyagé pendant un an, et quand je suis rentrée c'est Capucine qui est partie voyager pendant un an, et donc on s'est pas vu pendant 2 ans mais on continuait d'échanger.
Okay.
Et quand elle est rentrée de voyage, je savais quelle date elle rentrait, etc., et je me suis dit je suis pas loin de l'aéroport, je vais lui faire un coucou à l'aéroport, welcome back. Et je suis arrivée à l'aéroport et en fait on se voyait pour la première fois, déjà en ayant grandi toutes les deux et en étant célibataires toutes les deux. Ça ne s'était jamais produit. Et je sais pas, il y a un petit truc, un petit déclic qui s'est opéré, je pense. Et puis le lendemain, on a fait sa soirée de retour avec toutes nos amies et tout. Et depuis, on est toujours ensemble, en fait. Là, ça a été la première fois où vraiment on était libre d'être ensemble et tout ça.
Tu nous as fait quand même une petite réplique de film aussi, là, avec l'arrivée à l'aéroport.
Ouais, je suis un peu...
film.
Ouais.
Très Hollywood.
Je crois, je suis très, très Hollywood. Mais oui, c'était un peu ça. Et voilà. Bon, notre histoire était un peu mal barrée, parce que forcément, quand t'as le passif de te connaître en tant qu'ami, bah, tu connais bien les travers de l'une et de l'autre. Donc la première année et demie n'a pas été simple. Je n'étais pas sûre qu'on franchisse le cap, mais finalement, si, aujourd'hui, ça va très bien.
Et alors, comment est venu le sujet de la maternité entre vous deux ?
Alors, très vite, on a abordé tous les grands sujets de la vie, parce que comme on était déjà amis, c'est vite venu sur la table. Ouais. Moi, je ne lui ai pas dit « je veux spécifiquement un enfant avec toi », mais je lui ai toujours dit « moi, je veux être maman, je veux porter un bébé », voilà, c'est hyper important. Et elle m'a dit « moi aussi, je ne serais pas du tout contre être maman, enfin, même au contraire, je serais plutôt pour, par contre, je ne veux pas du tout porter de grossesse ».
Ah oui.
Donc là, on s'est dit,
déjà, au moins.
Bon, bah ça, check, c'est pas mal.
Pas de débat.
Voilà. Et donc, on savait l'une et l'autre qu'on voulait des enfants, mais on a mis un peu de temps avant de se dire qu'on voulait un enfant ensemble. Enfin, un peu de temps, au bout d'un an et demi, deux ans. Donc, c'est tôt dans la relation, oui. Mais on avait le passif de 7-8 ans d'amitié. Donc, c'est pour ça que c'est allé un peu plus vite. Voilà, et là on a commencé à se renseigner et à découvrir que c'était terrible, enfin le manque d'informations était mais vertigineux quoi.
Toi, t'étais dans quel état d'esprit à ce moment-là ? Est-ce que tu étais toujours angoissée à cette idée de passer par la PMA ou c'était le moment où justement tu t'étais un peu apaisée sur le sujet ?
J'étais très angoissée toujours, jusqu'à un moment où je me suis dit bon, de toute façon tu veux un enfant, Capucine veut un enfant aussi, on est raccord. J'en suis peut-être capable, je peux passer par ce parcours ultra médicalisé qui me terrorise, je vais l'amorcer et puis on va voir. Je voulais surtout que mes critères hyper importants pour moi dans un parcours PMA soient respectés, donc moi je voulais absolument, et c'est devenu aussi le projet de Capu par extension, mais je voulais absolument un donneur non anonyme, donc un donneur dont on connaît pas l'identité, mais dont notre fille pourra connaître l'identité une fois qu'elle est grande.
Ok.
Parce que moi, je connais pas une partie de mes origines, et ça me pose question, et ça éveille beaucoup ma curiosité depuis que je suis toute petite. Donc je me suis dit, on a le choix, donc autant opter, voilà. Mais tous les choix sont ok dans ce domaine-là, mais voilà, ça faisait vraiment écho pour moi. Et puis surtout, je voulais pas avoir d'entretien psychologique obligatoire, comme c'est le cas dans certains pays. J'avais pas trop envie que me mette une dose de cheval en termes d'hormones. J'avais envie aussi que mon corps soit un peu tranquille, ayant eu des problèmes gynéco, tout ça. J'avais pas envie de commencer sur un truc hyper costaud.
Ok.
Et voilà, donc on a cherché. J'avoue qu'on a pas mal galéré, parce que déjà trouver des infos fiables sur la PMA pour les couples hétéros, c'est pas forcément évident, mais pour les couples de femmes, ça l'est encore moins. Ou alors on chopait une bribe d'infos d'un côté, de l'autre, on tombait sur des infos erronées, pas actualisées, enfin c'était vraiment terrible quoi. Donc là déjà la petite graine en moi commençait à prendre sur le côté ok, il faut faire des choses, c'est pas possible. Ça a été mon premier petit warning dans ma tête. Et puis on a fini par trouver effectivement le pays et les conditions réunies, et là ça a commencé à m'apaiser un peu. Je me suis dit ok, déjà on peut peut-être avoir un parcours PMA qui nous ressemble et qui répond à nos envies et nos besoins. Donc déjà, c'était comme un feu vert qui me disait « Ok, Léa, avance tranquille, ça peut peut-être être moins l'autre. Horrible que ce que tu imagines. Voilà. »
Comment tu le vivais, le fait de ne pas pouvoir faire ça en France ? Parce que c'était pas autorisé encore.
Non, c'était pas autorisé encore. À vrai dire, ça, je l'ai pas mal vécu. Ouais. J'ai toujours trouvé ça cool, presque, de devoir aller à l'étranger. Ça, c'était mon côté, le côté positif pour moi dans la PMA. Parce qu'avec ma femme, on est de grosses voyageuses.
Okay.
Donc, presque, je trouvais ça sympa, l'occasion d'aller ailleurs. La petite parenthèse, et ce que j'ai pas dit, c'est qu'entre-temps, nous, on a déménagé au Portugal. Et il s'avère qu'on l'a pas du tout fait exprès, mais c'est dans ce pays qu'on a pu concevoir notre fille, selon les critères qu'on voulait.
Ok.
On est tombé au Portugal complètement par hasard, et maintenant, avec le recul, on se dit, en fait, il n'y avait pas du tout de hasard. La vie nous a peut-être amené là où c'était ok pour nous de faire un enfant dans les conditions qu'on voulait, etc. Donc voilà, finalement, nous, on n'a pas eu à se délocaliser et à aller à l'étranger. On était déjà finalement à l'étranger pour concevoir notre fille. Mais j'étais très énervée et très frustrée que les couples qui sont en France puissent pas bénéficier de cette procréation médicalement assistée. Mais pour moi, personnellement, ça me posait pas de soucis.
Ok. Donc quand vous décidez, c'est donc direct le Portugal ?
Oui, en fait, en faisant des recherches, longues recherches, bah, on finit par s'apercevoir que la PMA au Portugal est légalisée pour toutes depuis bien avant la France.
C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup du Portugal.
Mais
sur
non,
la PMA.
Pas du
c'est
tout.
Toujours l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre.
Ouais, et en fait, c'est pour ça que moi j'ai voulu ouvrir un peu le champ des possibles aussi en disant, mais il n'y a pas du tout que l'Espagne et la Belgique. Il y a aussi des pays. En plus, qu'on a une législation plus ouverte encore que ces deux pays-là, et le Danemark et le Portugal, on a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de possibilités. Je trouvais ça hyper dommage qu'on n'en parle pas. C'est pour ça que après, voilà, j'ai fait tout ce que j'ai fait, mais voilà, c'était une parfaite synchronicité, si je puis dire, parce que je me suis aperçue donc qu'on pouvait réunir tous les critères qui étaient importants pour nous au Portugal. Et là, on s'est dit, mais c'est juste incroyable, on n'en revenait pas. Mmh. Donc, on a contacté une clinique qu'on a trouvée sur Internet et on leur a posé donc toutes les questions qui étaient importantes pour nous pour bien valider le fait qu'effectivement, ce soit possible, etc. Ouais. Et quand ils nous ont dit oui, pas de souci, enfin, vraiment, on était sur les fesses, clairement, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Et donc là encore, ça m'a donné un peu de baume au cœur et je me suis dit, ça va peut-être être moins la galère que ce que je pense.
Ouais. Comment on choisit la clinique qu'on va appeler ? Moi, je sais que je galère tout le temps à me dire, je vais chercher tel docteur ou tel docteur quand je regarde sur les sites.
Ouais, c'est pas facile. Je pense qu'un bon truc, c'est de faire marcher le bouche à oreille quand on peut. Mmh. Mais quand on connaît personne, c'est de regarder beaucoup sur Internet, d'essayer de comparer. Ouais. Je pense qu'il faut pas non plus se perdre à faire des appels avec 10 cliniques parce qu'au bout d'un moment, c'est trop difficile de faire une comparaison entre tant de... Voilà. Donc, il faut déjà faire marcher un peu son feeling, essayer d'en trouver 2-3, contacter 2-3 cliniques et voir si... moi, je pense que le feeling, enfin dans ma vie perso, mais aussi particulièrement dans le PMA, dans la PMA, ça a été très important. Mmh. Et faire les choses comme on les sent, avec cœur et tout, et surtout pas se forcer à aller dans un endroit parce qu'on nous a dit pour le coup là que c'était vraiment parfait, mais si on le sent pas, il faut pas forcer.
Oui.
Donc, faire marcher le bouche à oreille, oui, mais c'est notre feeling qui doit avoir le dernier mot. Mmh. Vraiment.
Donc, tu contactes cette clinique, comment ça se passe ?
Ça se passe plutôt bien. Ils nous disent de venir, je crois, une semaine après. Donc là, je me dis, waouh, dingue. Donc, on débarque.
Là, vous vivez déjà au Portugal.
Oui, on vivait déjà au Portugal. Okay. La clinique, elle était à 1 heure de chez nous, donc c'était OK. On débarque, moi, la boule au ventre, parce que ce qui me terrorisait dans la PMA, c'est aussi la partie gynécologique. Moi, j'ai je sais pas pourquoi, mais j'ai un gros trauma du gynéco. Il faut savoir qu'avant, quand j'allais faire mes contrôles gynéco, il fallait que ma femme soit avec moi, je me mettais à pleurer. Enfin, c'était vraiment un trauma pour moi d'aller chez gynéco. Ouais, c'était chaud. Mm. Donc là, je me suis dit, ma pauvre, tu t'embarques dans un truc où quand même... le gynéco, tu vas le voir souvent.
Ouais, et pas que...
Voilà, exactement. Et donc, moi, j'avais la boule au ventre, j'étais pas bien, tout ça. Et je suis tombée là-bas sur une gynéco très gentille qui a su nous mettre à l'aise. Et surtout, ce que je trouve qui a été très différent... c'est que quand je faisais mes contrôles gynéco avant dans ma vie lambda, il n'y avait pas de but derrière. Alors que là, je savais que tout ce que je faisais, ça me rapprochait toujours plus de mon potentiel bébé.
Ouais.
Et donc ça, moi, la carotte, ça marche plutôt bien. Donc c'était une très belle carotte pour moi et je me suis dit, tiens coup, tu sais pourquoi tu fais tout ça. Et ça m'a donné une force de ouf, vraiment. Et donc voilà, elle nous a expliqué le process.
Vous parlez en quelle langue là ?
En français. Ouais, la plupart des cliniques qui accueillent une population internationale, ils parlent généralement les langues qu'il faut.
D'accord.
Donc c'était hyper agréable en français tout ça. Et ensuite elle m'a donné elle m'a booké des rendez-vous pour passer des examens. Alors là, par contre, les examens, c'était un peu moins rigolo. Tout ce qui était prise de sang, échographie, ça allait. Mmh. Par contre, j'ai dû passer la fameuse hystérosalpingographie. Terrible. Alors, prudence, c'est pas terrible pour tout le monde. Il y a plein de femmes pour qui ça passe comme une lettre à la poste.
Mmh.
Moi, malheureusement, c'était pas du tout le cas. Je pense aussi que j'étais très stressée, donc ça a pas aidé.
Ouais.
Mais c'était très douloureux. Bon, maintenant, quand je sais ce que c'est, un accouchement, tout ça, je trouve plus ça si douloureux, mais sur le moment, j'avais pas cette expérience. Donc ça a été très difficile, c'est très invasif comme procédé, tout ça, c'était chaud. Mais heureusement que je l'ai fait, parce que c'est un examen qui vise à voir si les trompes sont perméables, donc si tout va bien dans les trompes de stache. Les trompes de Fallope. Trompes de stache, c'est dans les oreilles, pas tout à fait ça. Pas tout à fait le même endroit. Donc si les trompes de Fallope sont bien perméables. Et en fait, moi, j'en avais une qui était bouchée. Et ils ont réussi à me la déboucher pendant cet examen-là. Et ça a eu une importance capitale sur la suite. Donc voilà, j'ai vraiment bien fait de me faire violence et de passer cet examen. Et puis ensuite, il a fallu choisir le donneur parce qu'on avait la possibilité soit de passer par un donneur de la banque de la clinique, donc il choisissait pour nous et voilà, soit on allait choisir nous-mêmes notre donneur dans une banque de sperme danoise. Voilà, là il y a une grosse base de données et c'est vraiment nous qui choisissons. On a préféré faire ça parce qu'on se disait que de toute façon il y avait un choix à faire, donc plutôt le faire nous que de le laisser à un médecin.
Ouais.
Mais c'est pas facile, franchement c'est pas facile comme processus, c'est un peu perturbant de voir autant de profils, de lire autant de profils.
Tu vois les photos ?
On voit les photos quand ils sont petits ou bébés, les donneurs.
D'accord.
Donc pas adultes, moi j'avais pas vraiment envie de voir des photos adultes, voilà, ça... Il y a un côté où ça fait un peu peur de pas voir, mais il y a un autre côté où j'avais pas envie de garder en tête tout le temps sa tête. Mais c'est très compliqué parce que dans ces banques-là, ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'infos sur chacun des donneurs. Mais du coup, mettre en concurrence les profils avec autant d'infos, c'est hyper difficile. Ouais. Parce que forcément, il y a une partie d'un profil qui va être plus cool chez l'un, puis chez l'autre, ça va être encore autre chose et encore autre chose. Et à un moment donné, j'ai dit à ma femme, on va jamais réussir à se décider. Donc je pense que c'est pas fait pour tout le monde de passer par ce processus-là. Il faut vraiment avoir une capacité de décision et de pouvoir trancher, en fait.
En fait, vous avez fait comment ? Vous avez sélectionné, je ne sais pas, 10, après 4, après...
On a un peu fait ça. On rentre les critères dans la base de recherche. Donc, on a mis des critères assez généralistes. On n'avait pas de besoins particuliers. Donc, on a eu beaucoup de profils qui correspondaient. Et donc, en fait, on a pris un papier, un stylo. Vraiment, on a fait ça de manière très scolaire. On a fait une liste oui, non et peut-être. Et à chaque fois qu'on lisait un profil, on écrivait le pseudo du donneur dans une des catégories. Ce qui fait qu'à la fin, dans la catégorie oui, on avait une shortlist de donneurs et on a choisi ensemble parmi ces donneurs-là.
D'accord. Et donc, ils sont tous danois ou c'est des gens de...
Non, ils ne sont pas tous danois. Alors, il y en a beaucoup de danois.
Ouais.
Mais il y a aussi beaucoup d'étudiants étrangers au Danemark et c'est beaucoup les étudiants là-bas qui donnent leur sperme. Mmh. Donc, il y a plein de diversité dans les donneurs dans ces banques-là.
Donc ça y est, vous avez réussi à faire le choix.
Oui.
Ça doit être fou.
Ouais.
Ça doit être...
On a peur de se tromper. Ouais. On se dit, ça se trouve, on va le choisir lui, mais ça va pas marcher. Et est-ce qu'on fait le bon choix ? C'est... Ouais, c'est un peu... C'est torturé, un peu, comme période, quoi.
Ouais. Bon, le choix est fait. Qu'est-ce qui se passe après ?
Alors après, du coup, on informe la clinique du donneur qu'on a choisi. On envoie le paiement pour acheter les paillettes de sperme. La clinique s'occupe de toute la logistique. Donc, ils acheminent les paillettes de sperme à la clinique portugaise. Et puis, ils me donnent un protocole en me disant, voilà, on va faire une stimulation, mais très, très douce. Donc, ça m'allait bien. Mmh. Voilà comment ça va se passer, etc. Et on commence sur tel cycle. Donc, on a pris contact avec la clinique, c'était fin novembre. J'ai fait les examens en décembre et on était en vacances, etc. Donc on s'était dit qu'on allait faire ça sur le cycle de février. Finalement, on a eu quelques trucs dans notre vie qui ont décalé. Donc on a testé en mars, début mars. Donc c'était quand même assez short la période de temps. Ça, on n'a pas eu vraiment à attendre longtemps, etc. Et voilà. Et donc quand mes règles sont arrivées en mars, j'ai envoyé un texto à la clinique. Alors ça, c'est très chelou aussi d'envoyer un texto à quelqu'un pour dire coucou, j'ai mes règles, voilà, mais c'est comme ça que ça se passe.
Ouais.
Et puis ils m'ont dit c'est ok pour nous, tu peux commencer ton protocole. Et puis voilà, j'attendais patiemment jusqu'à la date de l'insémination.
Donc là, t'as des piqûres à faire ou pas ?
Non, comme j'avais une stimulation vraiment douce, c'était par comprimé.
Ok.
Donc c'était trop cool, j'ai trouvé ça vraiment bien et c'était pas too much, quoi. C'était à peu près ce que je voulais.
Mmh.
Et voilà, et donc pendant toute cette période de stimulation, donc à peu près 12-14 jours, il y a des contrôles aussi qui sont faits, des contrôles de prise de sang, d'échographie pour voir ce qui se passe dans le corps, si le corps réagit bien, si tout est ok, voilà. Et tout était à peu près ok, et donc est arrivé le jour de l'insémination. Et c'était assez fou, moi je trouvais ça un peu vertigineux, mais j'étais très très persuadée que ça fonctionnerait jamais du premier coup. J'avais jamais entendu des PMA qui se passent rapidement, qui fonctionnent du premier coup. Comme j'avais des problèmes gynéco, je m'étais dit que ça allait potentiellement prendre vraiment beaucoup de temps. Et ma femme m'avait dit, Léa, t'es sûre ? Parce que là, quand même, ça peut marcher tout de suite. Je lui ai dit, mais non, ça marchera jamais tout de suite. C'est sûr que ça va mettre du temps, tout ça. Donc elle m'a dit, ouais, bon, je suis pas sûre. Et
t'avais combien d'essais ?
On peut faire autant d'essais qu'on veut, vu que c'est l'étranger et que de toute façon, on paye chaque essai. Tu fais le nombre d'essais que tu veux.
Ok, d'accord.
Voilà, et donc voilà, on arrive, tac, ils nous sortent une grande pipette qui contient les spermatozoïdes, et en fait c'est très très rapide quoi. Ouais. Ils insèrent ça par le col de l'utérus, c'est pas douloureux, et voilà, et c'est fait. On reste allongé 10 minutes, et après ils nous disent bonne journée, et puis à dans 15 jours pour le résultat. Et là on se dit ok, bon bah c'est tout. Et là on se pose 1000 questions, on se dit ok, mais du coup je peux me remettre debout, il n'y a pas tout qui va ressortir, parce que vraiment, vraiment je vous assure, on se le dit. Et puis on se dit mais du coup est-ce que je peux tout manger comme d'habitude, est-ce que je peux faire du sport, est-ce que je peux soulever des charges lourdes, est-ce que je peux faire ci, enfin c'est un peu voilà, on sait pas trop. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de prendre la parole à ce sujet, parce que c'est important d'avoir des infos sur ce moment là et puis commencent les 15 jours les plus longs de notre vie, parce que ça peut être vraiment terriblement long, 15 jours finalement, quand on y pense.
Tu dois passer pareil par tous les... Ça va marcher, ça va pas marcher.
Et c'est comme ça tous les jours, plusieurs fois dans la journée, c'est terrible. En plus, ce dont on parle peu, c'est qu'après avoir fait une PMA, en général, on a un traitement de progestérone. Donc la progestérone, c'est une hormone qu'on prend normalement par voie vaginale. Donc en plus d'être très relou, parce qu'il faut se mettre des ovules dans le vagin deux fois par jour, voilà, enfin, c'est vraiment pas glamour. La progestérone, ça crée vachement d'effets secondaires. Des nausées, de la fatigue, les seins tendus, etc. Sauf que c'est des symptômes qui sont complètement similaires aux symptômes d'une grossesse. Donc si on le sait pas, on a vite fait de se dire bingo, je suis enceinte, alors qu'en fait pas du tout, c'est causé par la progestérone. Voilà, donc il y a ça aussi, il faut dealer avec ça, on constate des symptômes, mais en même temps on n'ose pas se dire que c'est bon, parce qu'on sait que c'est pas forcément le cas. Donc voilà, plein de variations. Et puis, tout le monde m'avait dit, surtout, tu fais pas de test de grossesse trop tôt. Attends bien, ça sert à rien de faire des tests précoces, etc. Évidemment, j'ai fait des tests précoces, parce que sinon, c'est pas drôle. Et donc, je crois que vers le 12e jour, le 11e jour même, j'ai acheté des tests précoces. Et donc, je l'ai fait. Et là, j'ai compris pourquoi on m'avait dit de pas faire ça. Parce qu'en fait, ça clignote pas enceinte ou pas enceinte. Ces tests-là, c'est une petite barre qui s'affiche. Et en fait, sur le tout premier, mais vraiment, il fallait avoir une loupe, que ce soit à la lumière, à une lumière de ouf et tout, pour s'apercevoir qu'il y avait une petite barre. Donc en fait, moi, je vois ça et je me dis, je peux pas me réjouir, je peux pas sauter au plafond, en même temps, c'est peut-être pas mort. Donc j'étais exactement toujours dans la même incertitude, sauf que j'avais perdu 15 balles. Voilà. Et donc ma femme me dit, non, mais c'est mort, t'attends le bon jour. Je dis oui, le lendemain, rebelote, je recommence. Et en fait, la barre, elle était un tout petit peu plus foncée. Mais vraiment, il fallait avoir de très bonnes lunettes pour regarder ça. Et là, ma femme a dit, non, vraiment Léa, tu arrêtes. J'ai dit, d'accord, j'arrête. Et j'ai attendu le bonjour et j'ai fait un test enceinte, pas enceinte. Et là, pour le coup, c'était direct enceinte. Et là, j'ai paniqué d'un coup. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais comment on va faire? Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est impossible d'être enceinte au premier essai. Enfin, j'étais tellement loin dans ma tête que... Enfin, ça m'a un peu fait tomber à la renverse, quoi. Et en même temps, j'étais ultra contente. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai un bébé qui est en train de se former dans mon ventre. Mais c'est un truc de ouf. Enfin, c'était vraiment beaucoup de choses mélangées. Et ma femme qui me dit, je te l'avais dit. Voilà. Et c'est comme ça que tout a commencé.
Oh, chouette. Et alors, comment s'est passée ta grossesse?
Trop bien. Je nageais en plein shoot d'hormones. Moi, je suis un peu de nature stressée, je suis un peu péchue, tout ça, dans la vie. Donc, ma femme avait grave peur, je pense, que je sois un peu horrible. Je sais pas pourquoi elle se disait, avec les hormones et tout, elle va être vraiment relou. Mais pour autant, elle était prête à affronter ça avec moi. Ça a été tout l'inverse. J'ai jamais été aussi détendue de toute ma vie.
Là, tu touchais ton rêve, quoi.
Ah ouais, et elle m'appelait Gandhi, ma femme. Elle me disait, mais c'est un truc de fou, je t'ai jamais vue comme ça. Mais rien n'avait d'importance, je planais à 15 000 vraiment. Pourtant, je me suis tapé tous les désagréments relous, des nausées pas possibles, des migraines à m'en taper la tête contre les murs. Dès les toutes premières semaines, j'ai eu des douleurs dans le dos, mais atroces. Alors, je me disais, mais j'ai même pas encore de ventre, j'ai mal au dos, qu'est-ce que ça présage, quoi. Des douleurs ligamentaires, tout le package, quoi. Mais pour autant, je m'en foutais, je me disais, mais c'est ouf, si j'ai tous ces symptômes, ça veut dire que mon bébé, il est bien là, donc allons-y, les nausées. Non, vraiment, je planais, grave. Et donc, tout s'est très bien déroulé, j'ai eu un super suivi au Portugal, j'ai eu une gynéco incroyable, que je voyais tous les mois, elle me faisait une petite écho, donc tous les mois, on voyait notre bébé, on était comme des folles. n'y avait jamais de toucher vaginaux, parce que du coup, elle checkait tout avec l'écho. Donc ça, c'était, pour moi, qui ne suis pas très, très fan de ça, c'était vraiment cool.
Ouais.
Je redoutais pas, du coup, le moment où j'allais aller faire mon contrôle, tout ça. C'était vraiment que du kiff. Et tout s'est super bien déroulé. Franchement, c'était le bonheur. Et je ne me suis jamais aussi sentie aussi... puissante, belle, mais pourtant moi je suis pas quelqu'un, je suis pas super forcément à l'aise avec mon corps, tout ça, mais là j'étais en folie. Je me baladais en sous-vêtements dans l'appart toute la journée tellement j'étais en kiff de voir mon ventre. Enfin vraiment, j'étais une femme enceinte insupportable. Tellement j'étais genre waouh.
Bah, épanouie.
Non, ouais, vraiment très très épanouie. Ouais. Ouais.
Est-ce que tu avais fait un projet de naissance?
Oui, on a fait un projet de naissance, quand bien même c'était pas encore trop d'actualité à l'époque et en plus au Portugal. Et dans notre projet de naissance, il n'y avait rien de très extravagant, mais le point qui était le plus important pour moi, c'était que ma femme puisse être avec moi tout le temps. Même s'il y avait une césarienne d'urgence, même pendant la pause de la péridurale, etc. Et on avait même choisi l'hôpital où on allait donner naissance à notre fille. En ce sens, donc on avait checké que tout ça soit possible. Je voulais absolument aussi qu'elle puisse rester avec moi une fois que la petite était née. Moi je trouve que c'est dingue qu'on écarte souvent les coparents et qu'on dise bah non c'est bon, toi tu peux rentrer chez toi. Enfin bon, pour moi ça n'a pas de sens, donc ça c'était hors de question. Donc même peut-être si ça m'avait été refusé, j'aurais dit bah tant pis, j'accouche chez moi, quoi, tellement c'était important. Voilà. Et puis après il y avait des trucs classiques, faire du pot à pot, pas lui donner son bain tout de suite, essayer de laisser finir de battre le cordon avant de le clamper, de la lumière tamisée si c'est possible, que j'ai pas un défilé de 8000 personnes dans ma chambre, qu'on me fasse pas des touchers vaginaux toutes les 2 secondes. Voilà, c'était rien de ouf, mais c'était quand même quelques points qui me tenaient à cœur. Et on avait très très conscience que les choses pouvaient se passer complètement différemment, donc on restait quand même ouverte, mais je tenais quand même au fait que ma femme soit avec moi tout le temps. Voilà.
Et alors, tout s'est bien passé comme tu voulais ?
Alors, tout s'est bien passé, mais évidemment, comme la plupart des accouchements, pas du tout comme je l'avais imaginé. Moi, je m'étais extrêmement renseignée, mais même avant d'être enceinte, même depuis très jeune, je pense que j'ai vu toutes les émissions de la Maison des Maternelles, j'ai écouté tous les podcasts de maternité, j'ai lu tous les bouquins, donc j'étais plutôt très outillée. Donc, je savais que potentiellement, il ne fallait pas que je me fasse trop de plans sur la comète pour mon accouchement, parce que probablement que ce ne serait pas tout à fait ça. Ce que je m'étais dit par contre, c'est que forcément ça allait être long, parce que premier bébé, tout ça, donc je m'étais dit ça va être très long et très douloureux. Et en réalité, on se couche un soir, et puis vers minuit, 1h du matin, je me dis oh tiens, j'ai envie de faire pipi, j'ai un peu mal au ventre, tout ça. Donc, fin de grossesse, donc on fait pipi 3 fois par nuit, quoi. Donc je me lève, je vais faire pipi, puis je me recouche, et puis 10 minutes après, je me dis « Oh, j'ai de nouveau mal au ventre. Bah, c'est fou, j'ai peut-être encore envie de faire pipi. » En fait, je fais l'aller-retour 3 ou 4 fois avant de capter qu'il y avait une répétition, une récurrence, et de me dire « Eh, chelou, cette douleur récurrente. Ah, mais... » Et en fait, donc j'attendais d'avoir des contractions, j'en avais jamais eu toute ma grossesse, donc j'attendais ça, mais comme le messie, et quand j'en ai, je capte pas, quoi. Donc voilà. Donc là, je réveille ma femme, je lui dis « Attends, il y a un truc qui se passe, il y a un truc. » Elle me dit « Ouais, machin, hyper dans le coltard. » Et puis j'attends, je m'assois sur le lit, comme ça, je me dis « Mais... » Et puis non, je sens que vraiment, il y a une récurrence, tout ça, donc douloureux, mais complètement gérable. Et je me dis « Ok, allez, je vais prendre ma douche, je vais me faire un brushing. » Évidemment, je suis comme ça, moi. Et donc, en pleine nuit, voilà que je prends ma douche. Je m'accroche contre les parois du mur quand j'ai une contraction, et puis quand ça passe, hop, je me fais mon shampoing, tatati.
Ah oui, tu t'accroches, donc elles sont quand même...
Ça commence vite à être quand même douloureux. Mmh. Mais en fait, entre les contractions, je suis complètement normale. Mais pendant les contractions, c'est un peu chaud. Mais je me dis, bon, ça va, si c'est ça, ça va. Je fais mon brushing, pareil, et donc je m'arrête toutes les 2 minutes en plein milieu de mon brush, tout ça. Donc ma femme me dit, mais t'es complètement allumée. Je lui dis, non, c'est important pour moi. Elle me dit, ok. Et puis finalement, en fait... On a toujours du mal à l'expliquer maintenant, mais on a l'impression que c'est passé en 2 minutes entre le moment où ça a commencé et le moment où on est parti à la maternité. Mais finalement, on est parti à la maternité qu'à 6h du matin.
Ah oui.
On a foutre qu'une idée de ce qu'on a foutu pendant ce temps-là.
Bah, les brushings, maquillage, l'épilation.
Ouais, non, le make-up, ça va, j'avais un peu laissé tomber. Mais je sais pas, on a rangé des trucs dans l'appart. Ouais. Enfin, c'était trop bizarre.
Préparer le nid.
Oui, je m'affairette partout. Alors, il y a des femmes qui commencent à faire ça bien en amont, mais moi, je crois que c'était juste à ce moment-là. J'avais des contractions, j'étais en train de presque passer aspirateur en pleine nuit, enfin, n'importe quoi. Et c'était vraiment la douleur montée vraiment crescendo. Et je me suis un peu épatée à me dire « Ah ouais, t'arrives à encaisser quand même ?» La sensation que j'avais, c'était que je m'embrasais. J'avais vraiment l'impression qu'à chaque contraction, il y avait des flammes qui consumaient tout mon corps. C'était vraiment exactement cette sensation-là. Et puis, hop, ça repassait, et voilà. Sauf que forcément, bah, ça a commencé à se rapprocher. Et donc, à 6h du mat, j'ai dit, bon, là, on y va, parce que je pense que c'était toutes les 3 minutes. Et je commençais à vraiment douiller. Donc, je lui ai dit, allez, on y va. Et puis, une fois qu'on est arrivé, bah, tout s'est enchaîné très vite. Ma gynéco a été appelée, l'anesthésiste aussi. Ils sont arrivés en 2-2. Et j'étais déjà à 4-5 cm. Donc, je m'étais dit, bon, bah, c'est bien engagé, tout ça. Sauf qu'en fait, ça a été très, très vite, la dilatation. À peine ma gynéco m'avait ausculté et qu'après, elle a voulu rechecker un truc. Elle m'a dit, ah, mais en fait, on est déjà passé plutôt à 6 cm. Et en fait, toutes les demi-heures, presque, il y avait des centimètres en plus. Donc, ça a été vraiment très vite.
Ouais.
Je suis arrivée à dilatation complète et j'étais là, genre, waouh, mais c'est pas ça, j'avais pas du tout prévu. Je pensais que ça allait prendre des heures, donc dingue. Et puis ma gynéco me dit, ouais, quand même, elle est pas hyper engagée, la petite. Donc viens, descends de ton lit. Entre-temps, il m'avait fait une péridurale quand même, j'ai oublié de préciser. Ça m'avait vachement soulagée, je trouvais ça extraordinaire. La petite s'engage pas comme il faut, donc ma gynéco me dit, descends de ton lit. C'était une péridurale où on pouvait bouger sans souci. Et elle me dit, tu mets les deux mains sur le lit et tu fais des squats. Et là, je la regarde.
Ah ouais?
Je lui dis, je fais jamais de squat dans ma vie, donc je vais en faire le jour où j'accouche, j'ai un énorme bide, la péridurale dans le dos, tout ça. Elle me dit, oui, tout à fait, Léa, squat. Ok. Et donc, en fait, elle, avec la sage-femme, ma femme, tout ça, elles me font faire des squats pour essayer d'engager, en fait, la petite dans le bassin. Donc là, je me dis, ok, ils sont vraiment allumés au Portugal. Ça marche pas, donc elles ont essayé 1000 trucs pour essayer de faire s'engager la petite. Elles m'ont laissé très très longtemps après dilatation complète, chose qu'en France, je pense qu'on fait pas trop. Je pense qu'elles m'ont bien laissé 2-3 heures essayer de débloquer la situation.
Ok.
Et au bout d'un moment, je vois ma gynéco rentrer dans la chambre et je vois sa tête et je me dis, ça sent pas bon. Mmh. Et elle me dit, Léa, et elle me dit juste Léa, et je dis, ah, ok, c'est bon, j'ai compris, ça part en césarienne. Donc là, ça a été très difficile. Parce qu'en fait, encore une fois, la montagne russe, je m'étais dit, en fait, ça va super vite, tout se passe super bien. Et donc, je ne m'attendais pas du tout à une chute comme ça.
Mmh.
Donc là, je me suis mise à pleurer, vomir, trembler. Enfin, le packaging très, très glamour. Et là, l'équipe a été super. L'anesthésiste, il me faisait des petites papouilles dans les cheveux. Il me disait, t'inquiète pas, bientôt, tu rencontres ton bébé. Tout va bien, on est là pour toi. Ma gynéco, adorable, tout ça. On m'envoie au bloc. Et une fois arrivée au bloc, ma gynéco, je l'entends dire stop à tout le monde. Et elle dit, je veux checker une dernière fois. Même au bloc, que la petite ne soit pas engagée, on ne sait jamais. Et j'ai trouvé ça assez cool. Ouais. Et elle a vérifié une dernière fois, elle m'a dit, non, là, vraiment, Léa, tu n'es aucun regret, on ne peut pas faire autrement.
Okay.
Et voilà, donc après, c'était parti, césarienne, et voilà. Et donc, ils ont sorti Liv. Donc, ça a été complètement fou. J'étais complètement à l'ouest. Je pense qu'ils m'avaient mis la dose aussi d'anesthésie, tout ça, donc je planais. J'avais vraiment besoin que ma femme elle soit à côté de moi et qu'elle me raconte des trucs, donc je disais parle-moi, ça me déconnectait un peu. Aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas ce qu'elle m'a raconté, ni elle ni moi, mais je sais que ça a été super puissant, mais je ne sais pas ce qu'elle m'a dit. Et voilà, et donc là après la petite est partie, et alors que j'avais vraiment envie que ma femme elle reste avec moi, c'est là que je me suis dit, oh la vache, c'est ça d'être une maman. J'ai dit, non, va avec la petite, je veux pas qu'elle soit toute seule. Alors que moi je rêvais que d'une chose, c'était qu'elle reste avec moi. Et là je me suis dit, le premier petit truc de ok, t'es une maman là en fait. Et voilà, donc après elles ont fait connaissance toutes les deux, elles sont restées un moment toutes les deux. On m'a sortie de là, on m'a amenée en salle de réveil et tout de suite on les a fait venir avec moi. Donc ça c'était cool, j'ai pas eu à rester toute seule parfois comme c'est le cas pour les césariennes. Et voilà, et je les ai vues passer l'encadreur de la porte en fait. J'ai vu ma femme rayonner vraiment. On avait dit qu'elle avait fumé le plus gros pétard de toute l'existence, je pense, parce qu'elle était émerveillée et tout de suite, c'était dingue de voir que c'était elle qui m'apportait notre bébé et tout. Et elle me disait, mais regarde, là elle te ressemble, là c'est drôle, elle a ça de ton frère, trop drôle, ça ressemble à ton frère ça, genre son nez ou je sais plus quoi. Et je me suis dit, et en fait j'avais quand même une petite appréhension de me dire, est-ce qu'elle va l'aimer tout de suite, est-ce que... Alors Capu, elle me disait, mais bien sûr que je vais l'aimer cet enfant et tout. Mais moi j'avais toujours ce truc de, est-ce que ça va, l'alchimie va prendre. Et en fait à la seconde où je les ai vues toutes les deux, je me suis dit, ah mais elle est raide dingue de son bébé, c'est ouf. Et ça m'a vachement soulagée. Et voilà, et moi j'ai pu faire vraiment rencontre, la rencontre avec Liv à ce moment-là.
Tu as allaité ou pas ?
Alors j'ai voulu, ça n'a pas fonctionné, et j'avoue que j'ai pas trop persévéré parce que bah, la césarienne c'était un peu douloureux quand même.
Ouais.
Et l'allaitement était ultra douloureux pour moi. Dès la première tétée, j'avais les seins en sang. Mmh. C'était mais terrible. Alors au Portugal, l'allaitement, ils sont très très pro-allaitement. Donc il y a tout de suite des gens qui sont venus m'aider, regarder si Liv a tété bien. Tout le monde a donc tout checké et a dit mais vraiment elle tète super bien. Donc le problème vient peut-être d'ailleurs. J'avais pas une goutte de colostrum, mais rien, rien de rien de rien. Pourtant j'ai accouché vraiment à terme. Et donc je la mettais au sein et je pleurais, c'était horrible. Elle, elle avait du sang partout, je trouvais ça atroce.
Ouais, ouais.
Ils m'ont apporté des bouts de sein en silicone, même avec ça, c'était carnage. Et puis elle, je pense qu'elle commençait à vouloir vraiment téter quelque chose.
Mmh.
Et je me suis dit, mais en fait, je suis même pas sûre qu'il y ait vraiment quelque chose qui sorte. Donc j'ai dit, bah, vous pouvez m'apporter un tire-lait. Ils m'ont dit ok, ils me l'ont apporté, je me suis branchée. Et là, mais il n'y avait rien qui sortait, pas une goutte. Et pas ce fameux colostrum dont on m'avait parlé.
Ouais.
Je savais que la montée de lait, c'était plus tard, mais je m'étais dit, bon, il va y avoir quand même quelque chose. Rien, de rien, de rien, de rien. Donc j'ai persévéré un peu. Au bout d'un moment, c'était carnage.
Ouais.
J'avais déjà le ventre ouvert, les seins en sang, ça faisait un peu trop... c'était un peu trop hardcore, quoi. Je me suis dit, bon, je sais que ça va être difficile de faire passer cette pilule, mais il va falloir que j'opte pour une autre solution, parce que c'est un peu trop. Et donc voilà, j'aurais dit, ok, apportez-moi un petit biberon, tout ça, et voilà. Et après, ça a été vachement mieux, mes seins se seront émis, la petite, elle hurlait plus, ça allait, et voilà. Bon, après, j'ai dû faire le deuil de cet allaitement, mais bon, c'est pas grave, tout va bien.
Et tes premiers pas dans la maternité, rentrer à la maison ouais.
C'était assez doux, mais intense aussi.
Tu t'es sentie tout de suite à l'aise, toi, dans ton rôle de maman ?
À l'aise, oui, mais il y avait quand même besoin de créer des habitudes, en fait, et de prendre des marques. C'est quand même... vraiment, avec ma femme, quand on est arrivé chez nous avec la petite dans le cosy, on savait plus où la poser, comment faire. Enfin, c'était... Il y avait plein d'automatismes à prendre. On savait plus par où commencer. Ah, mais est-ce que, du coup, il faut lui donner un biberon, là, lui ? Alors que pourtant, on avait tout préparé pour elle. Et
ouais.
Finalement, c'était encore autre chose de l'avoir vraiment au quotidien avec nous. Je pense que j'ai bien vécu les choses quand même parce que ma femme elle était avec moi tout le temps, on a tout fait et tout au long même jusqu'à maintenant on a tout fait à 50-50 quoi. Donc j'étais vraiment pas solo là-dedans. En plus il y avait quand même le fait de me remettre de la césarienne, donc elle a vraiment pris le lead sur plein de trucs.
Ouais.
Donc c'était génial. Et par contre il y a 2-3 jours après la naissance j'ai eu une énorme prise de conscience. Bah notamment quand on est sorti de la maternité, tout était une agression en fait. Je supportais rien, un klaxon dans la rue, quelqu'un qui passait à côté de la poussette, enfin c'était horrible. Et je me suis dit, mais si je suis inquiète comme ça toute ma vie, je vais pas survivre. J'ai dit à ma femme, je vais mourir d'inquiétude.
Ouais.
Je m'y attendais, mais pas autant.
Autant ouais.
C'était viscéral. Et ça a été un peu difficile à dealer. Et en fait, ça s'est apaisé au fur et à mesure du temps. Alors, c'est toujours là et ce sera là toute ma vie, mais j'ai appris à faire une place à cette inquiétude en moi et à ce que ce soit plus prédominant. Mais voilà, on s'est pas mis la pression. On s'est toujours dit, on se met pas de barrière, de limite, de il faut faire absolument comme ci, absolument comme ça. On a décidé de faire les choses comme on fait toujours dans la vie, au feeling, à l'instinct. Et on s'est dit, voilà, on va sûrement faire des conneries, c'est pas grave.
Ouais.
Et du coup, ça m'a aidé à vivre les choses tranquillement.
Et comment ça s'est passé au Portugal vis-à-vis de ce couple homosexuel que vous formez avec ta femme ? Ça se passe comment là-bas ?
Ça se passe hyper bien.
Ouais.
Ça fait 5 ans et demi maintenant qu'on y est et on a un peu tout vécu. On a été un couple d'abord là-bas, on a conçu notre fille, on a eu la grossesse, l'accouchement, la vie maintenant de famille.
Les pros ont toujours été...
toujours extraordinaires.
Bienveillants.
Extraordinaire. On n'a jamais eu un professionnel où on sentait qu'il y avait de la réticence ou... Jamais. Ils nous appellent toujours les mamans. Salut les mamans, machin. Enfin, c'est hyper friendly, quoi.
Ouais.
Et ça, c'était extraordinaire. Enfin, on n'avait pas du tout à se préoccuper de ça. Et je pense que ça devrait être le cas pour tout le monde. Mais là,
partout.
On sait que ça a été un vrai privilège. Et puis, on a même pu faire les papiers, etc., la reconnaître sur l'acte de naissance portugais. Alors, quand bien même, c'était pas possible encore en France à l'époque. La loi au Portugal nous permettait d'être toutes les deux les mamans de notre fille sur l'acte de naissance portugais, et donc ça on trouvait ça déjà extraordinaire.
Ouais.
Aucun problème, tout a été vraiment génial de ce point de vue.
Et du coup toi tu manquais d'informations au début de ton parcours, même plus jeune quand juste t'y pensais. T'as échangé, toi, j'imagine, avec plein de mamans depuis qui se posent les mêmes questions, qui ont peut-être un peu plus de réponses aujourd'hui, vu qu'on en parle de plus en plus.
Oui, alors pendant que j'étais enceinte, etc., j'avais encore du mal à trouver des personnes à qui m'identifier, voilà.
Ouais.
Et donc, comme j'ai eu du mal, j'ai décidé de, juste à la base, sur mon compte Insta perso, de parler de notre parcours, etc. Ça a vachement intéressé nos amis. Mmh. Et en fait, en faisant ça, ça a attiré d'autres couples de femmes à moi. C'était pas du tout le but de la manœuvre. J'étais très étonnée de voir que j'avais plein de gens qui s'abonnaient à mon compte, etc. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, c'est parce que j'avais une parole un peu libre sur notre parcours, que j'expliquais les choses, je pense, avec pédagogie, parce que c'est aussi... des compétences que j'ai de par mon job, mais donc en fait j'ai, plutôt que d'aller les chercher les gens, finalement j'ai attiré des gens à moi, et c'est là que j'ai pu découvrir plein de couples avec ou sans enfants, qu'on a pu échanger et tisser un espèce de cercle vertueux. Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis dit définitivement il y a vraiment quelque chose à faire,
ouais.
Parce que je commençais à manquer de place sur Instagram pour expliquer tout ce que j'avais expliqué, et je sentais que les gens étaient très très en demande, je recevais tellement de questions par mes messages privés, tout ça. Et donc là, j'ai décidé d'ouvrir un blog. Et le blog a super bien marché, j'avais plus d'espace pour développer plein de thématiques liées à la PMA, l'homoparentalité, etc.
Ouais.
Mais je me suis dit, c'est toujours pas assez en fait, c'est pas ok que nous, couple de femmes, on n'est pas, quand on va dans n'importe quelle librairie, ou à Cultura, à la FNAC, qu'on ne trouve rien au sujet de, là pour le coup, lesbo-parentalité, au sujet de la PMA pour nous, pour les couples de femmes. Il y a rien qui existe, et pourtant on a tellement de questions.
Ouais.
Et puis c'est aussi un peu violent et frustrant d'acheter des guides un peu généralistes, et puis toujours de devoir transposer, ah ben non, là, il parle du papa, mais c'est pas le papa. Et puis la posture d'une maman qui a pas porté son enfant, c'est pas tout à fait la posture d'un papa. Et là, je me suis dit, ok, tout ce que je fais, tout ce que j'aborde comme sujet, ça fonctionne bien. Il faut que j'écrive un bouquin, c'est obligé.
Ouais. Donc, ouais. Tu t'es lancée dans l'aventure de l'écriture, non pas d'un, mais de deux livres.
Oui, et même le troisième qui est prêt, mais qui n'est pas encore sorti. Mais oui, j'avais beaucoup de choses à dire.
Tu as créé ta propre maison d'édition.
Voilà, j'ai tout. En fait, j'ai créé de zéro tout ce que je trouvais qui me manquait. Alors c'était un sacré challenge parce qu'à l'époque j'avais quand même une boîte d'événementiel à côté, donc j'avais ma boîte, mon bébé, ma femme, et un Instagram qui prenait de l'ampleur, un blog à alimenter, des demandes parfois de journalistes, de podcasts, voilà. Donc c'était quand même très prenant. Et à côté de ça, je me suis dit, écrivons deux livres en même temps, c'est fantastique.
Bah oui.
Montons une maison d'édition. On n'y connaît rien à l'édition, mais on va y arriver. Et ça a été le cas. Mais ça a été très très long. Et puis après, il nous fallait des fonds aussi, parce qu'on n'avait pas de fonds dispo pour faire une grosse impression.
Ouais.
Donc on a monté une campagne Ulule. Enfin, il y a eu tout un espèce de cercle vertueux durant deux ans et demi quasiment.
Mmh.
Avec une communauté qui était toujours plus grandissante et que j'ai continué d'aider du mieux que je pouvais.
Ouais.
Et puis en parallèle, en fait, je me suis pas basée que sur mon propre parcours. J'ai recueilli des dizaines, centaines, plusieurs centaines même de témoignages. Je me suis beaucoup formée au sujet de la PMA, j'ai lu tout ce qui existait sur la PMA, j'ai rencontré plein de professionnels pour comprendre vraiment le côté médical, le côté psychologique, émotionnel, tout ce que je pouvais en fait. Je suis passée vraiment de quelque chose qui me terrifiait, c'était trois lettres qui me glaçaient le sang, à quelque chose qui me passionne aujourd'hui et dont maintenant c'est mon travail. Et quand je repense à ça, je me dis mais le switch est incroyable, jamais j'aurais imaginé ça, quoi.
Donc il y a un livre qui s'appelle La PMA, le guide.
Oui.
Donc là, tu expliques tout au niveau technique, on va dire.
Oui, toutes les possibilités, tout ce qui s'offre aux couples lesbiens, donc en termes de pays, de méthodes, de donneurs, tout plein de choses. Et puis comment ça se passe aussi, un parcours de A à Z, étape par étape. Quelles questions on peut se poser, du coup, quelles réponses on apporte à ces questions-là, comment on gère un potentiel échec. Vraiment, c'est toute la partie sur vraiment la conception du bébé.
Et donc, il y a aussi le livre Mère, avec un S, mais ou pas, t'as mis un point.
Exactement.
Pourquoi ?
Bah parce qu'on nous dit souvent, mais c'est qui la vraie mère du coup? Mais en fait, il n'y a pas de vraie mère. Mmh. On est des mères de manière individuelle, mais on est aussi des mères ensemble.
Ouais.
Donc voilà, c'est les mamans, c'est les mères, mais c'est aussi la mère chacune dans son rôle maternel bien distinct.
Donc là, c'est un petit guide de la maternité lesbienne.
Exactement. Là-dedans, on va plutôt parler de la période de la grossesse, de la naissance, du postpartum et de l'après, de la vie d'après avec un enfant. Il y a beaucoup d'informations qui sont généralistes sur ces moments-là,
ouais.
Mais toujours avec l'éclairage du couple lesbien, donc en répondant à des thématiques et des questions très précises à nos couples. Et puis ces livres, je ne les ai pas faits toutes seules, il y a aussi des professionnels qui ont participé. Psychologue, avocat, doula, gynéco, une consultante en lactation, enfin une sophrologue, tout plein de personnes qui ont apporté vraiment un éclairage très pro sur des thématiques très précises. Et on retrouve aussi plein de témoignages de plein de couples qui ont des enfants, qui en ont pas encore, etc.
Comment elle est inclue aujourd'hui, la maternité lesbienne, dans la société ? Est-ce qu'on y est ou on en est encore très loin?
On a fait du chemin. Ouais. Je dirais que les débats qu'il y a eu, qui ont précédé la révision de la loi de la PMA pour toutes, ont fait avancer les choses, ont visibilisé un peu plus nos familles, nos couples. Par contre, ce qui se passe quand on visibilise une cause, c'est qu'on a le revers de la médaille et qu'on a aussi la montée des extrêmes et des gens qui sont contre. Donc on est, je trouve, en France dans une situation un peu particulière où d'un côté il y a plein de choses qui bougent et de l'autre côté il y a plein de gens qui s'insurgent et qui sont pas d'accord. Voilà, mais en même temps je suis pas sûre qu'on devrait donner son avis pour savoir si les gens ont le droit ou pas de faire un enfant. La maternité lesbienne elle a encore de la visibilité à prendre pour que les gens arrêtent justement de nous demander qui est la vraie mère et donc c'est qui le père de votre enfant. Mais en fait elle n'a pas de père, elle a un donneur mais elle n'a pas de papa, et c'est ok. Voilà, c'est encore, il y a encore des choses très ancrées et que les gens ont du mal à comprendre. Il y a tout un tas d'études qui prouvent que aussi les enfants issus de familles homoparentales sont aussi heureux que les autres, voire un peu plus. Je pense qu'il y a plein de choses qui se font, qui montrent que tout va bien chez nous. On est juste des parents comme les autres. On est deux mamans, mais en fait, dans notre quotidien, on a changé des couches, on se lève la nuit, on galère grave quand notre fille est malade, on est au bout de notre life. On a les mêmes problématiques et parfois d'autres qui sont un peu plus spécifiques à nous, mais voilà, c'est tout. Ouais.
Vous en parlez déjà avec votre fille, toutes les deux ?
Oui, on en a toujours parlé avec elle. On me demande souvent, mais elle a pas elle vous pose des questions, Liv ? Mais en fait, elle nous pose pas de questions parce que son histoire, elle la connaît, donc elle a pas du tout besoin de nous demander quoi que ce soit pour l'instant. On lui a toujours expliqué avec des mots adaptés à son âge, mais même quand elle était potentiellement pas en capacité de comprendre exactement, on lui disait déjà. Le discours, c'est que les mamans, elles avaient que des graines de dame et que pour faire un bébé, il faut des graines de dame et des graines de monsieur. Donc qu'un donneur a donné sa graine, qu'un médecin a mis cette graine dans mon ventre, que nos deux graines se sont rencontrées et que ça l'a fait elle. Et ça, du haut de ses 3 ans et demi, elle est capable de le raconter à n'importe qui. Mmh. Et elle est très OK avec ça. Elle a complètement conscience que dans la plupart des familles, c'est plutôt un papa et une maman. Et que aussi il y a d'autres familles encore monoparentales ou avec deux papas, ou parfois même il n'y a pas les parents, c'est les grands-parents qui élèvent les enfants. Elle est hyper ouverte là-dessus. Sa réalité, elle l'a très bien inscrite en elle. On est ses deux mamans et elle est super détente avec ça. Et puis si toutefois elle a plus de questions en grandissant, on répondra à ces questions sans aucun souci. Nous, il n'y a pas du tout de tabou, on est très à l'aise avec les choix qu'on a faits et avec notre parcours. C'est aussi simple que ça.
Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
Oh mon Dieu, ça a tout changé. Évidemment, ça m'a changé moi, parce que devenir une maman, c'est un vrai truc. J'ai ajouté une sacrée facette à ma personne. Ça a pas pris toute la place. Je suis pas qu'une maman, quand bien même c'était vraiment un truc qui était extraordinaire pour moi, un but à atteindre merveilleux. Je suis pour autant pas devenue du tout qu'une maman, et je suis même peut-être un peu moins mère poule que ce que j'aurais pensé, alors que ma femme est beaucoup plus mère poule et j'aurais pas pensé non plus, comme quoi. Mais ça a tout changé. C'est un amour extraordinaire, vraiment qui surpasse tout. Et que je suis très heureuse de connaître et de vivre, mais c'est aussi avec une grande inquiétude qui arrive, comme je le disais, et ça c'est pas facile à dealer tout le temps, mais mais on y arrive. Et puis ça a changé aussi ma vie professionnelle, puisque j'ai fermé ma boîte d'événementiel pour ne me consacrer que au sujet de PMA, d'homoparentalité, et donc d'accompagner les couples de femmes, les femmes en solo aussi. Et ça a tout changé, ça a tout bouleversé, mais vraiment que pour du bon. Et je suis très très heureuse de cette aventure aujourd'hui.
Ouais. Tu dirais quoi à Léa, il y a quelques années, qui se disait « mince, je vais jamais vivre mon film ».
Ouais. Je dirais en fait, le film, il va être encore mieux que ce que tu pensais. Ouais. C'est incroyable tout ce qui va se passer. Tu vas te marier aussi avec une personne que tu soupçonnes pas, mais que t'as toujours kiffé. Tu vas avoir une petite fille incroyable et en fait, ça va bien se passer. Donc, je dirais d'avoir confiance, de se faire confiance, d'avoir confiance en la vie et de se dire qu'en fait, la vie, elle avait un plan qui était même encore plus chambé que ce que je m'étais imaginé. Et s'il y avait, je changerais rien à mon histoire, même si demain on me disait, tiens, un coup de baguette magique, là d'un coup t'es hétéro, je dirais non. Moi je suis ultra heureuse d'être avec ma femme, qu'on ait notre fille, et je ne changerais rien.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi être une maman au Portugal?
C'est être une divinité. Les Portugais, ils sont incroyables avec les femmes enceintes, les mamans et les enfants. Ça c'est hyper plaisant. Quand j'étais enceinte, c'était dingue. Enfin, vraiment, les gens étaient ultra sympas. Donc, être une maman au Portugal, c'est pas avoir l'impression de déranger quand on est avec son enfant, tout ça. C'est être hyper bien inclus dans la société et c'est très très agréable.
Quel est ton endroit kids friendly préféré au Portugal?
Oh là là, il y en a tellement. Ouais. Vraiment, les personnes que ça intéresse pour des vacances, je liste tout sur mon compte. Mais nous, on habite à Porto. Et à Porto, il y a vraiment plein... Enfin, déjà, tout est kids friendly. Et il y a plein de restos super cool. Il y a plein de choses très interactives pour les enfants. Donc voilà, ça va pas vous parler si je vous donne des noms. Mais si besoin, je suis là.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille?
Mes projets rien que pour moi, c'est de continuer de développer pour le coup mes projets pro. Moi, c'est ce qui m'anime. Donc d'autres livres, d'autres projets pour la maison d'édition, ça vraiment ça me passionne. Et nos projets en famille, déjà si on continue d'être heureuse comme on l'est, je trouve que c'est un projet qui est déjà pas mal. Et puis surtout c'est aussi de continuer de pouvoir voyager. Nous on adore voyager et on aime toujours d'autant plus voyager avec notre fille. Donc plein de voyages et plein de bonheur, ça me va très bien.
Merci beaucoup Léa.
Merci Shane.
Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.